René Boislève, Les trois personnes. À la potinière d'une ville d'eau, entre midi et 1 heure, trois messieurs se trouvèrent pressés et, comme ils causaient là, ventre à terre, ils convinrent d'aller déjeuner ensemble. Ils avaient passé la cinquantaine et modifié leur visage depuis peu, s'étant rasés à la manière des générations neuves, ayant rejeté vers l'occiput ce qu'il leur restait de cheveux grisonnants ou gris, ils étaient nu-tête et en pantalon blanc. Ils convinrent d'aller déjeuner près de là, sous les arbres de l'auberge à la mode, entre une verte pelouse de la largeur d'un mouchoir et un orchestre excellent. Les automobiles passaient, bruissaient, empestaient. Le vent d'est secouait tentes et parasols et rabattait la nappe sur les assiettes. Les trois messieurs, en léger costume d'été, s'installèrent fermement. De quoi parler entre quinquagénaires, lorsque l'on mange bien et que le vacarme des machines, uni d'une façon paradoxale aux langueurs de la valse hésitation, stupéfie vos pensées. De quoi parler, sinon de souvenirs? Remembrances gaillardes, aventures de régiment, de chemin de fer ou de chasse, l'écume de la mémoire, sont mises en commun tout d'abord, puis à mesure que l'intimité naît, en dépit du tintamarre et de la musique par hasard perçue, vient à vous caresser les nerfs, voilà des sources plus limpides qui jaillissent, et vous éprouvez le besoin d'exprimer en quelque chose qui compte enfin. Tout beau, au premier geste de confidence, l'un des trois hommes, M. de Soucelles, leva la main comme un chef d'orchestre qui arrête ses musiciens. « Messieurs, dit-il, nous glisserions trop vite à l'épanchement mensonger et qui embellit une aventure dans le temps même que celle-ci prend consistance. Interdisons-nous de toucher à aucune affaire où nous ayons joué un rôle avantageux. Il faut à tout prix, si l'on veut bien dire, limiter son discours. Et que penseriez-vous, pour écarter les vantardises, de raconter exclusivement des mésaventures? Chacun de nous, que diable, connaît bien une femme qu'il ait un jour voulu attaquer, ou qu'il ait attaqué sans succès, s'étant heurté, comme dit mon fils guerrier, à un bec de gaz. Où ne reste que l'embarras du choix, dit modestement M. Berthereau. M. Brissonnet, le troisième, se souvint aussitôt d'avoir goûté un amer plaisir au moins une fois près d'une femme qu'il eût aimée plus qu'aucune, mais qui était éprise à la folie de son mari. « Oh ! Fit M. de Sourcelles, s'il s'agit d'une amoureuse légitime, à vous l'honneur, Brissonnet, la mienne aimait son amant. La mienne aussi, dit M. Berthereau. » M. Brissonnet laissa passer une 60 chevaux à échappement libre, dont le bruit sans proportion avec les capacités du tympan humain étouffa le clair de lune de Werther. Il allait entamer son histoire quand trois automobiles, lancés à toute allure et qui se voulaient distancer, déchirèrent l'atmosphère de leur impertinent klaxon. Ces messieurs attendirent avec la résignation touchante des hommes de progrès qui ont accepté une fois pour toutes les inconvénients de la vie moderne. Enfin, il fut un instant possible d'écouter l'orchestre excellent que les clients de la célèbre auberge payaient cher, et alors M. Brissonnet commença. « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, » fit-il en levant la main, comme à la barre, « mais je modifie les noms propres et la topographie. » Ce sera règle admise, opinèrent les deux autres. Nous sommes au moins cela de la vieille école, et nous observons quelques discrétions en racontant des histoires de femmes. Je vous préviens que c'est une idylle genre bien passée de mode. Si elle vous ennuie, interrompez-moi. Admettons que mon héroïne s'appelait Madame des Gaudrets. C'est le nom d'une ferme que j'ai possédée en Anjou. Je situe ma pastorale aux environs de Pont-l'Évêque. M. Monsieur, je fus un des premiers invités chez cette personne après son mariage avec un de mes camarades de collège. Nous nous traitons de camarades. Godet était jadis entré en cinquième au lycée Henri IV, alors que j'y faisais moi ma philosophie. C'est vous dire que j'étais pour lui un ancien. Ah oui, et que, en cette qualité, vous étiez admis à vous chauffer au rayon de la lune de miel. Non, des Godrets, je vous en avais averti, était un homme aimé. Un vaurien, je parle. Oh non, non, pas même, hein, rien du tout. Mis à la porte du lycée, il avait, comme on dit, achevé ses études dans une boîte à bachots, rue Laumont à Paris, où il ne décrocha d'ailleurs jamais aucun bachot. Il possédait une terre en Normandie. Il était laid, il n'avait pas l'air plus intelligent qu'il ne l'était. Et une jeune fille, belle comme une fée, se toqua de lui lors de la première visite qu'il fit, une fois de retour en sa province. Comme il lui racontait en parfaite bonne foi ses échecs universitaires, et qu'il ajoutait, bon bas l'œil, il paraît que la demoiselle avait estimé cette singulière expression spirituelle au possible, et le jeune blackboulet irrésistible. Qui ne cède en effet que de beaucoup moins que rien n'est-ce parfois de très grands amours? Le vieux manoir des Godrets reçut bientôt la plus ravissante châtelaine qu'eussent contenue jamais ces murailles élevées sous Louis XIII, s'il vous plaît. Ah, ah! Vous nous avez averti que vous défiguriez les lieux. Ne trichez pas, je vous prie. Non, je change les noms et me promène à ma guise sur la carte de France. Entendu. C'est bien dans une gentilhommière déjà construite au temps de Mansart et de Lenôtre que j'arrivais par une soirée d'août de quelle année? Oh, c'est bien écoulé plus de 20 ans depuis lors. L'heureux mari vint me prendre à une petite gare au moyen d'une automobile, véhicule encore assez rare à l'époque, et en compagnie d'un parent à qui cette merveille appartenait. Je n'avais pas encore l'honneur de connaître Madame des Godrets. Je l'aperçus de la grille du parc avant que j'eusse mis pied à terre. Elle se promenait dans l'allée d'un parterre fleuri, formant tapis devant la demeure, et elle tenait une haute canne à la main. « Oh, sapristoche !» m'écriai-je. « Qu'as-tu ?» me demanda mon hôte. « Mais, mon vieux, mais ta femme est une beauté !» J'entends encore mon ancien camarade ricaner d'un air fat. « Croyais-tu, dit-il, que j'avais épousé un laideron ?» C'est bien pourtant ce que tu méritais. Je vous ai dit que ce Godret était laid et bête, répondez-moi. Croyez-vous que de tels hommes puissent être aimés? Momo, fit Monsieur Bernerot, j'en ai connu de ce calibre qui ont été coquifiés royalement. Le mari, entre autres, à qui votre histoire me fait penser soudain, et dont j'aurai sans doute à vous entretenir prochainement. Ah, n'anticipons pas, s'écria Monsieur de Choucel. Si vous nous dites que votre Godret fut aimé, nous le croyons, du moins provisoirement. Le caprice des femmes est sans borne, et j'ajouterai que c'est bien heureux pour la plupart d'entre nous. Non, messieurs, je me vois approchant de cette idéale créature dans le petit parterre. J'entends crier le gravier sous mes semelles. Je sens l'odeur des buis à laquelle se mêlait celle d'œillets d'Inde fraîchement arrosée, et qui d'ordinaire ne me plaît pas du tout. Vous dirais-je que c'est un mélange qui, tout détestable qu'il soit demeuré pour ma marine, ne va jamais sans me faire encore aujourd'hui quasiment pâmer par la nostalgie qu'il me communique de ce précieux instant. Bon, bref, vous êtes tombé amoureux de votre dame, des prés, des Cotterêts, avant de lui avoir baisé la main. Amoureux, je le sais. Il y avait ce sacripant qui me gênait, qui ricanait toujours, et de qui c'est elle qui était amoureuse. Elle était amoureuse. Mais le saviez-vous déjà en posant le pied dans le petit parterre? Si je le savais, si je le savais. Non, laissez-moi parler. Pendant que j'entendais crier le gravier sous ma botte, pendant que je respirais l'odeur du buis et des œillets d'Inde, savez-vous ce qu'elle faisait, Madame Desgaudrais? Oui, elle tournait vers nous son charmant visage. Oui, elle nous souriait, évidemment, messieurs. Elle tournait son charmant visage vers lui. À lui seul, elle souriait. Et ensuite, elle se laissait par moi baiser la main. Elle m'adressait un petit mot d'accueil. Parbleu, elle savait vivre, mais aussitôt, elle se jetait, je dis, messieurs, se jetait à la tête de son époux. Et elle l'embrassait devant moi, mais de quelle manière? Cyniquement, oh, j'aurais griffé ce misérable. Elle l'embrassait, voyons, c'était une gentille femme. Cyniquement, vous dis-je, je vous dis qu'elle l'embrassait cyniquement. Ce n'était pas en gentille femme, c'était en amante, oublieuse de toute retenue. Ah, d'un mot, vous étiez jaloux. Et cet imbécile de mari qui continuait de ricaner. Oh, je ne suis d'ailleurs pas à me contenir, je dis. Ah, de l'amour, mais songez que je suis célibataire et que j'enrage. Et cela fit ricaner de nouveau l'horrible homme aimé. Et elle? Elle ne sourit pas. Elle me regarda avec de beaux yeux de bête qui ne parle ni ne comprend. Elle avait dans la physionomie quelque chose de farouche et d'innocent. Elle était tellement indifférente à mon malaise que je ne pouvais lui en vouloir. Sa beauté, messieurs, était étourdissante. Ce ne fut pas même elle, maîtresse de maison, mais lui, le monstre, qui pensa à me prier de passer dans ma chambre. Et il poussa la condescendance jusqu'à m'accompagner. Bon, il y avait son avantage. C'était pour me demander « Comment la trouves-tu ?» J'étais seul avec lui dans ma chambre. Ma taille valait le double de la sienne. La civilisation, messieurs, a du bon, puisque je ne l'ai pas tué. Deux autos venaient de s'aborder au carrefour voisin avec un court fracas qui avait mis debout la clientèle du restaurant. Les musiciens distraits jouaient faux. Il y eut une pause. « Ce n'est rien !» annonça quelqu'un. Grâce à l'adresse des chauffeurs, l'aile seulement de l'une des voitures était arrachée. Durant ce temps, M. Bernerot, singulièrement attentif au récit de M. Brissonnet, avait réfléchi. Vous nous racontez, cher ami, que votre ancien camarade Desgaudrais était disgracieux et peu propre à recevoir l'amour d'une si jolie personne, mais vous négligez de nous faire le portrait du sire. J'aimerais savoir la couleur de son œil, le dessin de son nez, quel poil il portait. Votre taille était, dites-vous, le double de la sienne, est-ce exact? Oh, il faut tenir compte des exagérations ordinaires au narrateur qui s'échauffe un peu. Les quatre cheveux de ce Gaudrais ne musent pas atteint le menton. Voilà comment il convient de rétablir les proportions. Parfait, parfait, dit M. Bernerot. Et en quoi le physique de ce cancre peut-il vous captiver? Il était laid, bête, ai-je dit, et cela suffit à mon récit. Ah, permettez! Je tiens à m'assurer que la chaleur que précisément vous apportez à votre narration n'en altère pas la véracité. En outre, les quelques traits de ce Gaudrais, dont je voudrais bien savoir le nom véritable, me font souvenir d'un certain... Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue. Mais mon homme à moi était Sganarelle en personne. N'essayons pas, observa M. de Soucelles, d'interpréter des souvenirs authentiques comme nous ferions des romans à clé. Quel désir malsain que de vouloir toujours découvrir une de nos connaissances dans une galerie qu'on nous fait visiter. Bon, continuez, Brissonnet. N'empêche que j'ai connu un certain Cornard qui ressemble à votre Desgaudrais, jusque par la personne de son épouse. Notez, répliqua M. Brissonnet, que si je n'ai pas achevé le croquis du mari, Je n'ai pas soufflé mot qui puisse peindre la femme, hormis l'épithète jolie, qui est la banalité même. Et je vois qu'il faudra m'en tenir là, car nous devons prévoir l'hypothèse d'une curieuse coïncidence dans nos souvenirs. Je confesse que j'éprouverais un mordant dépit si je venais à apprendre que Mademoiselle des Gaudrets et Madame des Gaudrets trompa quelques jours son imbécile de mari, attendu que ce ne fût pas avec moi. Continuez, pauvre Brissonnet. Messieurs, je ne me trouvais pas le seul hôte au manoir des Gaudrets. En descendant, après m'être habillé pour le dîner, je rencontrai sur le perron, pendant qu'une cloche sonnait à toute volée, une respectable dame, mère de mon ancien camarade, puis une fille de quelque 30 années, à qui l'on eût bien donné 40, Mademoiselle des Gaudrets, et en outre le parent que nous avait amené depuis la gare en auto et que nous te ferons répondre, si vous voulez bien, au nom de Vicomte d'Espluchard, parce que ce vocable me vient à l'esprit. Il était cousin de Madame des Gaudrets et la jeune. C'était un gaillard. Diable ! S'écria M. Bernerot. Oh, Bernerot, vous êtes insupportable. Vous aurez la parole quand votre tour sera venu. Bobo, dit Bernerot, mais pour moi l'histoire se corse. Parbleu, dit Brissonnet, vous tenez un cousin un peu costaud. Vous imaginez d'emblée une jeune femme perfide et vous vous voyez déjà berner, le mari et moi-même. Cependant, vous n'attendez pas de moi le plat fait d'hiver. Je vous ai annoncé une idylle. C'en est une. Elle est, par définition, sans complication ni surprise. Elle a seulement un témoin malheureux. C'en est toute la particularité. J'aurai la parole, dit Bernerot, très curieux, au début très curieux. Ce vicomte d'Espluchard, reprit M. Brissonnet, ne manqua pas de m'apparaître sous le jour où le voit pour l'instant Bernerot. Je n'avais pas, moi, le programme que vous tenez entre les mains et qui annonce une simple idylle, et je regardais du plus mauvais œil ce tiers aux larges épaules. La jeune Madame des Gaudrets, à laquelle il faut bien donner un petit nom, admettons Hélène, allait et venait sur la pierre grise et moussue de cette terrasse, cornait des géraniums et qu'embaumait des résédas. Elle répandait elle-même un parfum qui me parut nouveau. Et, contemplant la grande pelouse où un ruisseau serpentait, les ormes magnifiques qui l'encerclaient, une statue rustique et délabrée parmi des roses, j'eus, pendant que la cloche annonçait si soigneusement le dîner, un moment de bien-être dont la qualité, après tout, un peu commune, était relevée de je ne sais quelle âpre saveur. En prenant place à table, la jeune Madame des Gaudrets, ou Hélène, qui n'avait pas prononcé une parole, qui paraissait encore timide, regarda son mari. Oh, je voudrais vous faire entendre, messieurs, tout ce qui peut être contenu dans ce regarda son mari. Elle regarda son crétin de mari d'une façon qu'aucune amoureuse à ma connaissance n'employa jamais pour faire à son amant le plus passionné des aveux. Avez-vous été aimé, messieurs ? Cela arrive, moi-même je crois bien l'avoir été une fois en ma carrière. Eh bien, ni vous ni moi n'avons été regardés comme cela. Non, ne protestez pas, il n'est pas possible que nous ayons été regardés comme cela. Et là, et pourquoi, s'il vous plaît? Mais cela se saurait. Quelques témoins se furent rencontrés qui m'eurent rapporté cet exceptionnel épisode de votre histoire et de l'histoire. Quelqu'un vous l'eût dit de moi, si pareil aubaine m'était advenu. Et sous cette œillade, que faisait le mari? Il mangeait son potage, le regard absorbé par l'image d'un coq aux couleurs vives ornant le fond de son assiette de faïence. Sa femme le regardait, non pour correspondre avec lui, mais pour son plaisir personnel. Elle l'admirait, elle l'adorait. Ah, c'était peut-être, dit Bernerot, pour laisser croire à son entourage, pour vous faire croire à vous qu'elle l'adorait. Oh, le manège est classique. Il s'agissait ce soir-là d'éviter qu'un nouveau venu puisse soupçonner une intrigue avec le dépluchard. Ouais, mais sachez que Madame des Gaudrets était sans hypocrisie avec son cousin Despluchard. Ce fut même sa liberté d'allure avec Despluchard qui nous tira dans l'embarras que crée dans un petit groupe la présence d'amoureux transis. Elle avait avec ce beau garçon une intimité qui datait de leur enfance commune. Entre elle et lui, rien de contraint, rien de guindé. Grâce à lui, qui, ma foi, était un homme agréable, la glace fut assez vite rompue, et la jeune maîtresse de maison montra un enjouement qui s'accordait avec sa plantureuse jeunesse. « Ouais, dirais-je à mon tour, » fit M. Bernerot. « C'est entendu, Bernerot, vous suivez votre idée. Moi, je suis la belle des Gaudrets, et je vous avertis loyalement, du séjour levé du piquant à mon récit, qu'elle ne me mène pas du tout, vous prétendez aller. »« Je vous arrête, excusez-moi, » dit l'entêté Bernerot. « Vous êtes abstenu de nous donner aucun détail physique sur votre héroïne. Je vous avoue qu'il m'est impossible de m'intéresser à une femme sans savoir si elle est brune ou bien blonde. » « Mais elle était brune, voilà bien avancé. »« Ah !» fit Bernerot. « Vous croyez, Bernerot, avoir identifié mon Hélène des Gaudrets. Dites-moi, avez-vous connu une femme aimant, mais aimant par goût fondamental et exclusif, la pêche à la ligne ?»« Pas personnellement, non. » Eh bien, j'ai l'honneur de vous informer que le goût fondamental exclusif de Madame des Gaudrets, à part celui qu'elle avait pour son triste mari, était la pêche à la ligne. Oh ! Hein ? Vous êtes dépisté. Je continue. Ce goût me fut révélé au cours du premier repas. Il fallait bien que la conversation tombât sur les passants ordinaires que l'on pouvait s'offrir au manoir. Là, le vicomte Despluchard dit familièrement « Oh, les patrons pêchent à la ligne, les invités font ce qu'ils peuvent. » Et Madame des Gaudrets, la vieille mère et la vieille fille, Mademoiselle des Gaudrets, jetèrent un coup d'œil attendri sur le couple qui, tout le long des jours, prenait en commun un plaisir innocent. J'avais cru tout d'abord qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais je me souvins qu'antérieurement à son mariage, cet animal de des Gaudrets m'avait un jour confié, au milieu d'une conversation sur les préoccupations politiques et sociales, que quant à lui, il se fichait de tout pourvu qu'il puisse s'asseoir sur la berge d'une rivière poissonneuse. Le bandit avait eu la veine non seulement d'épouser une femme jolie et amoureuse, mais une femme possédée du même étrange fanatisme que lui. Vous ne direz pas que c'était comédie, attitude destinée à nous donner le change. Pendant la quinzaine que je passais au manoir, notre admirable Hélène pêcha à la ligne à côté de son mari, et seule à côté de son mari. Elle pêcha à la ligne le matin et l'après-midi sans relâche. Le couple était à la pêche quand nous descendions prendre notre premier déjeuner le matin. Ils nous quittaient après le repas de midi pour aller à la pêche. Ils ne se laissaient revoir de nous qu'à la tombée du jour. Rappelez-vous que la jeune Madame des Gaudrets m'était apparue dans son petit parterre, une longue canne à la main. Eh bien, c'était un bambou divisé en trois fragments, s'avalant l'un l'autre une magnifique canne à pêche. Et que faisait, s'il vous plaît, le vicomte de Pluchard ? Le vicomte de Pluchard fut tout bonnement mon grand secours. Le vicomte Despluchard, ainsi que je vous l'ai dit, possédait une automobile et son bonheur consistait à faire des randonnées par toute la région. Il m'offrit une place à côté de lui dès le premier jour. Parfois, il emmenait galamment la vieille mère et sa fille. Ces dames le bénissaient. « Oh !» dit Bernot, « et le soir, dites-moi un peu, que faisiez-vous au manoir ?» Le vicomte était aussi bon musicien comme de sport, La vieille fille, chose curieuse, jouait du violon de façon remarquable. Tous deux nous exécutaient des sonates. Et les amoureux, durant ce concert, ils vous gênaient-ils plus? Oh, ils ne nous gênaient pas, en effet. Dégaudret se prétendait sourd à tout instrument. Il sortait, il allait, disait-il, se dégourdir les jambes dans le parc. Vous pensez, il était assis depuis le petit matin sur la berge de la rive poissonneuse. Et sa femme? Sa femme l'accompagnait. Ah, mais Madame Dégaudret, mère, disait, nous avons connu Hélène, jeune fille, elle adorait la musique. Et aimait-elle la pêche à la ligne, demandai-je. Elle n'y avait jamais songé, me répondit en sourire la vieille dame. Ah, ah, dit Bernerot. Mais qu'avez-vous à faire à ah et à ah, Bernerot? Moi, je marque simplement. Mais observa M. de Sourcelles, quand donc vous aperceviez-vous la belle Madame Dégaudret de qui vous êtes si entiché? Oh, hélas, nous ne la voyions guère qu'au repas, un peu avant parfois, et aussi un peu après, et puis le dimanche à la messe. Son mari était fort pieux. Et elle, oh, elle était devenue. Bernerot. Bon, je marque, mon bon ami, je marque. Mais en quoi vous importe ce détail? Ce n'est pas la première fois qu'une femme embrasse en même temps que l'homme qu'elle aime tout ce que celui-ci peut aimer. Ben, c'est pas la première fois, mais dans ce cas présent, cela m'intéresse. À votre aise, Bernerot. Bon, je reviens à la question posée par M. de Sourcelles, et qui correspond à ce qui, moi, m'intéressait le plus dans l'affaire. Effectivement, nous voyions trop peu Hélène Dégaudret. Mais, soit au repas, soit ailleurs, quand elle ne regardait pas son mari, la voir, seulement la voir, était, je l'avoue, un délice. Le son de sa voix aussi m'enchantait. Ses formes me remplissaient d'admiration. Il n'y avait pas jusqu'à son regard, même avili par l'usage qu'elle en faisait, qui ne me causa un sombre ravissement. Et le cousin sportif, lui, à tout ça, il était indifférent? Bien, vous devinez qu'au cours de nos nombreuses sorties en voiture et de nos déjeuners dans les auberges, je n'allais point sans faire part à mon compagnon des attraits exercés sur moi par sa cousine. Et il me dit... Ah, vous êtes comme les freluquets qui bourdonnaient autour d'elle avant son mariage. Elle a dû être fort courtisée. Oh, énormément! Comme vous dites cela, en seriez-vous étonné? Moi, me répondit le vicomte, ça m'a toujours paru drôle, vous comprenez? Parce que j'ai joué avec elle quand elle était gamine. Je suis convaincu que Despluchard était sincère. Mais sapristi, que faisait-il là? Ben, il était cousin. Il faisait là de l'automobile et de la musique, comme il en eût fait ailleurs. Il jouait le rôle de bout en train. Et la vieille dame le favorisait. Fort bel homme, séduisant, il faisait fi de la galanterie. J'eusse voulu quelques mots d'intimité avec lui pour être autorisé à lui dire... que la passion de sa cousine me semblait baroque et était irritante. Mais il me dit un jour, à propos d'une autre aventure amoureuse, « Bon, ces choses-là sont toujours risibles. » Voilà qu'elle était Despluchard. Si j'ajoute que Mademoiselle Dégaudret, 30 ans passés et plus laide que son frère, était folle du personnage, ça ne vous offrirait rien d'étonnant ni qui puisse vous captiver. « Oh, si fait !» s'écria Bernerot, « et rien ne peut m'intéresser davantage. »« Ah, du diable, si je comprends le jeu de Bernerot. Qu'importe, je marque, allez toujours. » Bernerot, observa M. de Sourcelles, « est un vieux chasse, il tient la piste, laissons-le. » « Le diable m'emporte, reprit M. Brissonnet, si j'ai désigné mes gens de façon qu'on les reconnaisse. » Oh non, si vous les travestissez complètement, c'est malhonnête. Écoutez, vous nous jurez sur l'honneur que la jeune madame des Godins était brune. Ouais, je le jure, et je vois que cela vous chiffonne. Toutefois, je m'en vais vous conter une alerte qui va vous remplir de joie. Attention. Une nuit, messieurs, une nuit d'été splendide. Oh, 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 firent les deux auditeurs. Une nuit d'été splendide. Chacun étant remonté en ses appartements, je ne pouvais me résigner à me coucher, tant le parc était beau sous la lune, et tant l'odeur des fleurs du parterre, qui ne rappelait à cette heure, je ne sais pourquoi, ni les buis ni les œillets d'Inde, me montait au cerveau et soulevait la tempête en mes sens. Lire, impossible. Rêver ne fut jamais mon fait. Nous avions entendu de la musique toute la soirée, et par extraordinaire, Hélène Desgaudrais était demeurée au salon afin d'écouter le concerto de Beethoven que le vicomte et la belle-sœur avaient spécialement répété. Et au cours de cette audition, j'avais remarqué l'admirable Hélène allongée. Enfin, j'étais à ma fenêtre ouverte. Le silence était parfait, c'est-à-dire rompu par les bruits légers sans lesquels il n'a guère de goût. J'entendis un poisson déchirer la plane surface du cours d'eau très lent. Puis tout s'assoupit, beauté, béatitude. Un rossignol chanta dans les grands ormes. De nouveau le silence. Un rossignol répondit, plus lointain, le vol de velours d'un oiseau de nuit amollit l'air immobile. Une bouffée de parfum s'éleva jusqu'à mes narines, réséda ou bien héliotrope. Oh, c'en était trop, je fis le geste d'enjamber l'appui de ma fenêtre. Elle ouvrait à 1 mètre du sol. J'allais m'élancer dans cette nuit enchanteresse. Je suspendis soudain mon mouvement. Et voici pourquoi j'avais vu une chose remuer. Une forme plus claire que la nuit avait bougé là-bas, et elle semblait courir vers l'extrémité de la pelouse au-delà du ruisseau. Mon dos se hérissa. Je réfléchis. Suis-je dupe, me dis-je, des apparences, ou bien le jouet des charmes de la nuit? Voyons. Ce que j'ai aperçu a trop de sveltesse pour être d'une fille de chambre ou de campagne. Alors je n'y pus tenir. Me voilà enjambant la barre d'appui, et j'entends mes deux pieds à la fois, comme une masse de plomb, écraser les lignes ftiches frêles et odorantes des résédas. Une femme était dans le parc, traversait en courant une portion de la pelouse privée de l'ombre des ormes. Elle s'y cachait donc, à moins qu'elle ne folâtrât, telle une nymphe. Cette femme, mais qui pouvait-elle être, sinon Hélène Desgaudrais? Hélène Desgaudrais folâtrait la nuit comme une nymphe des fontaines et des bois? Ou bien elle gagnait quelque endroit furtivement? Mais furtivement, pourquoi? Ah, messieurs, j'eus une émotion! Sur le champ, mon parti était adopté de savoir ce qu'il en était coûte que coûte. Mes pieds, lourds en tombant dans la fenêtre, étaient devenus élastiques et sans poids. Je ne m'entendais pas avancer dans les régions ombreuses, mais ce que je percevais très bien, c'était les battements de mon cœur. Sottement, à l'étourdi, je me heurtais au ruisseau. Il gazouillait entre les roseaux qui m'avaient empêché de voir son reflet sous la lune. C'est que, pour le traverser, il n'existait pas 36 ponts. Je dus exécuter un long détour avant de franchir une passerelle en me maintenant à couvert. Et à peine avais-je touché l'autre rive que le bruit d'un rire m'atteignit. Une pluie de perles en plein visage. Le rire ne provenait pas d'une femme éloignée de moi. Et à n'en pouvoir douter, C'était le rire d'Hélène des Gaudrées. M'avait-elle vu? Se moquait-elle de moi? Ou bien poursuivait-elle enivrée son jeu plaisant de déesse nocturne? Je m'arrêtais, je demeurais figé comme un bronze. À ce moment, il est hors de doute, messieurs, que je me suis attendu à voir surgir la silhouette du vicomte. Enfin! Oui, Berdereau, je l'avoue. Je me souviens même parfaitement que je prononçais « et quasi tout haut ». Eh bien, c'est un peu raide. Et tout à coup, je vis, à quatre pas de moi, non pas une silhouette, mais deux. Il est vrai qu'elles étaient enlacées de manière si étroite qu'on les pouvait réduire à l'unité. Quant à les identifier, Bernique, je retenais mon souffle. Ah, que c'était peine superflue. Le baiser échangé, une voix, la voix du rire de perles, me dit, mais me dit du temps posé d'un propriétaire qui fait sa tournée au potager. La belle nuit, monsieur Brissonnet. Et Hélène des Gaudrées, suspendue au bras de son mari, nous remontâmes tous les trois en parlant de petites choses quelconques jusqu'au manoir. Et au moment de me quitter, l'homme heureux dit à sa femme, il faudra absolument marier ce garçon-là. Non, ils ne m'ont pas marié. Je les quittais deux jours après et jamais je n'ai voulu les revoir. Monsieur Brissonnet croisa les mains sur le bord de la table en regardant tomber dans sa tasse le café qu'on lui servait. Et il demeura pensif, tandis que les petites bulles blondes agglomérées à la surface du liquide, se séparant, changeaient de groupe et fuyaient vers les bords. À quoi on connut qu'il avait fini. « Je demande la parole, » dit M. Bernereau. « Oh, c'est convenu. Messieurs, je vous prie de m'excuser si je manifeste un si grand désir de ne pas laisser se refroidir l'intérêt de l'aventure Brissonnet, mais celle-ci est pour ma propre histoire un excitant tout particulier. C'est elle d'abord qui me l'a fait choisir entre tant d'autres, et j'oserais presque dire qu'elle lui sert de préambule. » Il alluma son cigare, en tira quelques bouffées, et parla. « Messieurs, la difficulté que j'éprouve en commençant est de me conformer à la règle qui veut que nous donnions à nos personnages des noms supposés. Je ne suis pas un romancier, je n'ai aucune imagination. J'aimerais, je vous l'avoue, conserver à mon héroïne ce nom de Madame des Gaudrées, auquel nous sommes déjà accoutumés. « Ah, oh, c'est impossible !» s'écria Brissonnet. « C'est inconvenant à l'égard de mes propres souvenirs. Et sais-je de quel opprobre vous allez charger vos personnages? En outre, c'est tendancieux, car par là vous favorisez votre thèse de l'identité entre ma brune et votre blonde. »« Soit, » dit Bernereau. « Dire qu'il va me falloir baptiser tout mon monde. Oh, j'ai envie d'appeler ces gens-là, un, deux, trois, etc. » « Oh non, non, cela est disgracieux, cela ne parle pas à l'esprit. Ben, je donnerai donc à ma dulcinée le nom d'un hameau où j'ai pris hier un bol de lait et qui s'appelle les Noulis. Allez, va pour Madame des Noulis. » Vous savez, messieurs, que je me suis, comme le vicomte de Spluchard, beaucoup occupé d'automobile, surtout dans les débuts de ce sport. Mon histoire se place un peu plus tard que celle de Brissonnet. Pour moi, le siècle avait 2 ans. C'était après ce qu'on nomme en termes d'automobilisme l'année de Berlin, à savoir lors du grand circuit de Vienne, un fameux tournoi international où notre industrie tenait le premier rang. Je suivais avec un vif intérêt les épreuves. Nous étions sur le chemin de feu, l'Autriche-Hongrie, un certain nombre de Français. Pendant la toute première partie du voyage, vertigineux, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme, tout à fait selon mon goût, une sportive que nulle difficulté du raid n'avait privée de son heureuse humeur. Je n'ai pas rencontré depuis lors une femme animée à ce degré de l'ivresse du mouvement. Elle ne conduisait pas elle-même, il est vrai, mais, car cela n'était guère encore d'usage chez les dames, Il suffisait d'être en voiture pour se déclarer satisfaite. Jolie, oh, messieurs, à tel point que, jusque sous les horribles lunettes, elle vous eût séduit dès le premier rapport. Grande, fit M. Brissonnet. Ah, Brissonnet, vous nous avez caché la taille de Mme des Vaudrey. Je réserve celle de Mme des Noulis. Vous savez déjà que cette femme séduisante était blonde, elle était blonde comme les blés. D'instinct, j'avais été attiré vers elle, et cela dès le premier relais. Je la perdis au second, mais le troisième jour, durant la traversée de la Suisse, je reconnus ses cheveux d'or sur le bord de la route. La voiture qui la portait était en panne. Les pannes fréquentes à cette époque étaient l'occasion de mains épisodes romanesques. Je stoppais et j'offris mes services. Par hasard, il ne se trouvait pas superflu. On travailla donc, on causa, puis comme on se lavait les mains dans l'eau glacée d'un torrent, on se présenta. Madame des Noulis avait pour mari un homme ni grand ni petit, ni bien ni mal. Je regrette de ne point offrir un mari aussi affreux que celui qui exaspéra Brissonnet. Les Nouillis étaient accompagnés d'un autre couple, celui-là composé d'un homme évidemment beaucoup mieux que M. des Noulis, et d'une personne tellement disgracieuse à figure de chèvre, et c'est à cause de ce détail que je les appellerai, bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, monsieur et madame de la Biquerie. Je leur octroie la particule pour ne pas demeurer en reste sur le précédent narrateur. Je ne m'occupe pas beaucoup de toute cette Biquerie, mais je fis aussitôt la cour à madame des Noulis, qui, sur ma foi, ne fut pas décourageante. Une fois remis en marche, nous nous perdîmes presque pas de vue. Je voyageais seul avec un mécanicien qui put à plusieurs reprises donner un coup de main à mes nouveaux amis, ces messieurs n'étant point secondés. Desnoulis était maladroit et paresseux. La Biquerie, lui, très rompu à toutes les exigences de l'automobile, mais ayant oublié quelques outils indispensables lors de sa première étape à Dijon. Ma grande surprise fut un relais de trouver Madame des Noulis, les mains à la pâte, si l'on peut s'exprimer ainsi, en parlant d'une femme qui a retroussé ses manches sur ses bras charmants, qui a endossé la salopette ouvrière, et qui, penchée sur le capot béant, tripote et tourne les écrous à l'aide de ses petits doigts noircis et poisseux, qui, de plus, au moment où je fais halte, quelques pas derrière sa voiture, crie à son mari d'un ton résolu: « Alors, Ouse, tu entends de rien, tu entends rien !» À la vérité, elle et la Biquerie étaient seules dignes d'entreprendre un voyage de cette sorte. Eux seuls le paraissaient apprécier. Quand j'arrivais avec mon mécanicien, Madame de Noulis n'acceptait pas toujours volontiers de se faire suppléer dans sa tâche, mais elle se montrait aimable extrêmement. Je passe sur des incidents de route où vous verriez, entre autres choses, s'accroître mon intimité avec l'adorable blonde, mais qui allongerait inutilement mon récit. À Vienne, nous descendîmes, les Noulis, les Labiquerie et moi, au même hôtel. On était au milieu de juillet, il faisait une chaleur accablante. Ces messieurs, qui dormaient mal la nuit, se rattrapaient le jour. Ce n'était pas que je n'eusse grand besoin de faire comme eux, mais j'étais agité à l'excès par la présence, si proche de moi, de Madame des Noulis, et je m'évertuais à découvrir le stratagème qui me permit un rapprochement plus étroit encore. Il devenait évident que nous nous entendions, elle et moi, à merveille. Nous nous entendions si bien que j'en vins un moment à me demander si la belle n'était point femme légère, ou... Oh, que j'étais donc jeune, si elle ne laissait point voir trop innocemment que j'avais fait sa conquête. Tout marquait que j'étais tombé au sein d'une famille honnête, de petits obéraux, d'excellente éducation, l'esprit tourné plutôt en arrière qu'en avant. Le mariage des Labiquerie ne remontait qu'à une date récente, puisqu'ils disaient faire leur voyage de noces. couple mal appareillé, comme vous l'avez vu. Il tenait au Nouilly bien avant leur union, elle étant la sœur aînée de Nouilly, et lui, oui, mon cher Buissonnet, oui, lui, le propre cousin de mon très gracieux flirt. Fiche, t'en dit Buissonnet. Ben, c'est ainsi, cher ami, oui, mes figures et les vôtres coïncident de telle façon que j'en suis même un peu gêné. Ne vous ai-je pas averti que j'allais prendre la suite de vos affaires? Elle était bonne, observa M. de Soucelles, et c'est cette succession qui vous amusait. Mais comment se fait-il, Bernereau, que vous ne paraissiez pas précisément triomphant? Bien, c'est qu'à mesure que je vous fais toucher davantage les rapports entre l'un et l'autre récit, les objections qu'on peut opposer à leur coïncidence exacte se présentent et s'accumulent dans mon esprit. Bizarre phénomène, avant de prendre la parole, j'étais sûr de nouer mon épisode au précédent. Je parle à présent. Je donne à Brissonnet même la croyance que je tiens son propre fil, et voilà que je sens que par la moindre filochure, ma prétention première est rompue. Mais elle n'est qu'accessoire dans l'affaire. Bon, je poursuis. Il faisait chaud, disais-je, et je cherchais mon stratagème. Voici ce que je crus délicat et du dernier fin. Mon agitation m'ayant mené durant les heures torrides jusqu'au musée de peinture, j'avais eu la surprise de trouver dans ce vaste et magnifique monument de la fraîcheur. J'en fis la confidence à Madame de Noulis, ne doutant guère qu'elle ne saisît l'occasion à la fois d'échapper à la fournaise et de passer 2 heures en ma compagnie. À ma stupeur, elle fit exactement comme si elle n'avait pas entendu ma proposition. Ce n'était pas une femme si facile. C'était une provinciale timorée, soumise aux convenances, et qui témoignait hardiesse et même témérité en présence des siens, quitte à redevenir petite pensionnaire dès qu'elle avait hasardé le pied hors de ses fortifications naturelles. Alors je renonçais à la fraîcheur des pinacothèques, et ne gagnais même pas à cette abstention 5 minutes de tête-à-tête avec ma délicieuse mijaurée. Mais comment donc employait-elle les lourdes heures de l'après-midi, car elle prétendait ne pas dormir? À peine Madame de Noulis avait-elle reçu le renfort de son mari, de sa belle-sœur ou de son cousin, elle redevenait avec moi coquette, mais d'une coquetterie que j'estimais regrettable en tant qu'elle était d'une part excessive en vérité et d'autre part sans but. Cette femme n'allait-elle pas un de ces jours me demander de m'accompagner au musée? Oh, je fus autorisé à le croire. Mais comme elle ne s'y décidait point, ce fut moi qui lui en osais faire publiquement la proposition. Surprise, explosion, scandale! La belle-sœur ébaubie, le mari riant jaune. La dame elle-même empourprée et pudique, tout de bon. Le cousin seul demeurait impassible. Mais en cœur, les 4 fossiles m'accusèrent de faire montre d'immoralité babylonienne. Cependant, les aguichements de Madame de Noulis à mon endroit déconcertaient le cynique débauché que l'on voulait que je fusse. Beaucoup de puérilité, en somme, comme vous voyez, un peu de ridicule aussi. Mais, messieurs, quelle femme! La vie presque commune avec la provinciale tribu n'était pas très aisée, car si mon idole, tout en m'attirant, me repoussait, elle aboutissait par son manège à rendre dénouillé et ombrageux. Un exemple, j'avais pris le parti, non pas tout désintéressé, de me rendre seul au musée durant les heures trop chaudes. Madame de Noulis ne vint jamais au musée, cela va de soi, mais elle ne consentit pas une fois à monter en voiture pour le Prater, entre 5 et 6, avant que je ne fusse rentré à l'hôtel, et en état de faire le classique promenade viennoise avec la tribu. Tout exprès, je me mettais en retard, je me faisais attendre. On m'attendait, la tribu enragée, Madame Dignoulis piétinait. J'arrivais d'un pas lent, j'affrontais allègrement l'impatient général. N'étais-je pas le monsieur sans qui Madame Dignoulis refusait d'aller au Prater? Remarquez que la question de la promenade au Prater s'aggravait du fait qu'en mon absence, une seule voiture eût suffi. À cause de moi, deux voitures étaient nécessaires. Et il y avait dispute quotidienne avant de monter, touchant la répartition des personnes. Dispute qui se terminait non moins régulièrement par loger M. Dignoulis et sa laide sœur dans un carrosse, Mme Dignoulis, son cousin et moi dans un autre. La famille me maudissait, mais celle qui consentait à se dire mon flirt tenait bon. Et comme aucun des trois autres membres ne se fût privé d'elle, l'on en passait finalement par le caprice de la belle. Le frère et la sœur dévoraient leur dépit dans leur voiture à deux chevaux et m'envoyaient à tous les diables. Vous m'entendez bien? Or, quand nous nous trouvions tous réunis, soit chez un pâtissier, soit au restaurant, de quoi supposez-vous qu'il était question? Mais du retour vers la mère patrie avec moi, du retour imminent d'ailleurs, du long parcours en automobile, dont on fixait les étapes, soit dans le Tyrol, soit en Bavière, soit en Alsace-Lorraine, en me consultant bénévolement et avec déférence sur chaque halte, attendu qu'il semblait inconcevable que ce retour puisse s'effectuer sans mon aide. Un soir, au Kallenberg, une colline dominant la ville où nous allions dîner pour goûter un peu d'air, je me trouvais accoudé auprès de Madame Dignoulis à une balustrade rustique. Des tziganes jouaient derrière nous, furieusement à briser leurs chanterelles. La nuit était superbe, la famille quasi écartée. Je fis à l'objet de mes amours une solennelle déclaration. Ah, était-ce enfin cela qu'il fallait à cette célimène soumise au formalisme? Elle ne fit pas mouvement. Son visage demeura sans expression aucune. Alors, prenant la chose en souriant, je simulai que je frappais un guichet. Pam, pam! Elle prononça un mot allemand que nous avions eu l'occasion de lire et d'entendre en maint endroit, geschlossen, c'est-à-dire fermé. Je grommelai en m'efforçant d'imiter un public mécontent. À la descente du Kallenberg, nul souvenir de l'incident. Aménité habituelle à mon égard et coquetterie provocante, comme si de rien n'était. Le lendemain, à midi, dans la grande cour du Hofburg, où nous nous traînions en désœuvrés pour entendre l'aubade que donnait à l'empereur la musique de la garde, et comme la chaleur s'annonçait pire encore, je dis à Madame Dignoulis, en la regardant d'une manière plus impérative que suppliante, « Je vais passer une fraîche après-midi au musée. » Elle adopta un air sérieux, puis elle sourit avec une grâce inoubliable qui pouvait être autant ironie compatissante qu'espèce de promesse. Et j'allai au musée ce jour-là, en un si parfait espoir de la rencontrer, que ne la rencontrant au bout d'une heure dans aucune des salles à température exquise, je revins dépité à l'hôtel par la plus grande chaleur du jour. Et je me souviens que dans l'escalier qui conduisait au deuxième étage occupé par nous, je m'arrêtais aux avant-dernières marches afin de m'éponger le front et de me remettre un peu la figure en ordre, de peur de paraître ridicule à Madame Dignoulis si un hasard voulait que je la rencontrasse avant d'atteindre ma chambre. Dans l'instant où je posais le pied afin de me livrer à cette opération d'homme épris, je la vis, elle, tout entière. Ses cheveux blonds, sa nuque, sa taille et un kimono soyeux sous les plis duquel elle était déjà précédemment apparue. Et tout entière, reconnaissable de ne pouvoir s'y méprendre, je la vis entrer dans une chambre qui n'était ni la sienne, ni celle de son mari, ni celle de monsieur, ni celle de madame de la Biquerie. Oh, assurez-vous, ce n'était pas non plus la mienne. Je restais là sidéré, mon mouchoir à la main, le front ruisselant. Je poussais un juron, et puis tout à coup, bondis jusqu'à ma chambre, dont j'eus soin de ne pas fermer la porte, afin de rester attentif au moindre bruit du corridor. Je me lavais, me changeais, venant à tout instant à ma porte entr'ouverte, risquant un œil au dehors, jusqu'à la chambre numéro 125, 126, dont je me répétais mentalement le chiffre en français et en allemand, je ne sais absolument pas pourquoi. Et j'étais depuis beau temps remis en état, essuyé, lavé et habillé pour la promenade au Prater, quand, à la suite de nombreuses alertes dans le corridor, je vis de nouveau Madame Desnouillis, qui regagnait tranquillement sa chambre. Elle me tournait le dos et ne me vit point. J'étais tout habillé pour la promenade, je m'apprêtais à descendre, ne tenant pas outre mesure à éclaircir un mystère probablement banal. Mais comme je passais devant la chambre numéro 125, 125, j'en vis sortir Monsieur de la Biquerie. Je regardais encore une fois involontairement le numéro 125, 125, et je dis au beau cousin, « Tiens, vous avez changé de chambre ?» Il ne me dit ni oui ni non, et poursuivit son pas tranquille et mesuré dans le corridor. Ah, j'eus tout loisir d'aller réfléchir dans le hall, car je m'étais mis en une folle avance sur l'heure de la promenade. Vous jugez que ma dignité me commandait de battre en retraite et par le plus court. Bien, messieurs, c'est faire injure à la puissance de séduction de Madame Desnoulis. Une heure après les petits événements que j'ai rapportés, consentez à me voir assis, je vous prie, dans une voiture à deux chevaux, en compagnie des personnages que j'avais vus l'un et l'autre sortir de la chambre numéro 125. Je me niais à moi-même un dépit atroce, mais que sa grandeur précisément rendait apte à atténuer ses propres ravages. Vous me voyez donc sur la banquette, à côté de Madame Desnoulis, et vis-à-vis de Monsieur de la Biquerie, bon cousin. Nul motif de rien modifier nos attitudes respectives. Et Madame Desnoulis me demanda, « Eh bien, faisait-il frais au musée ?» Et elle continua avec moi son habituel et galant manège. J'y répondis en badinant avec une ardeur que fouettait ma fièvre. Mais du galant manège, je comprenais désormais l'abominable malignité. Toute la question était pour moi de décider si je continuerais à me prêter au jeu ou si j'attendrais une occasion propice à montrer que je l'avais découvert. Entre nous, il est vraisemblable que j'eusse prolongé l'état d'expectative, moitié pour le plaisir de contempler plus longtemps de beaux yeux, moitié pour le ragoût de constater jusqu'à quel bas usage une femme pouvait domestiquer un quidam. Oui, sans doute, j'eusse honteusement temporisé, si le soir même, sous des traits surprenants, la divinité protectrice des familles ne m'était apparue. Nous avions à peine réintégré nos cellules après l'échange des bonnes nuits dans le corridor que j'entendis frapper à ma porte. Oh oh ! Je me précipitai et je vous laisse à deviner qui frappait à ma porte. Non, 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 vous ne brûlez pas. C'était Madame de la Biquerie. Madame de la Biquerie, émue, hésitante à la fois et résolue, roulant des yeux, portant la main à son cœur, son mouchoir à ses yeux, avant que la pluie en tombât enfin, plus raide que jamais, venant m'exposer, qui n'échappait ni à elle, ni à son cher mari, ni à son frère, que je me livrais avec la trop charmante Desnoulis à un divertissement dangereux. À croire, ma visiteuse, la jeune Denouli était une femme qui avait semé jusqu'ici le bonheur autour d'elle, qui avait choisi son mari entre 100 soupirants, contracté par conséquent un mariage d'amour et donné l'exemple de la plus touchante tendresse. Monsieur Denouli souffrait, penserait-il, de voir sa femme bien-aimée se livrer à de petites excentricités de voyage qui, hélas, étaient de nature à leurrer un étranger. À qui le disiez-vous, ma belle ? Monsieur Denouli n'eût pas voulu, par une intervention personnelle, donner de l'importance à ce qui n'en saurait avoir. Aussi, la sœur, compatissante, avait-elle pris sur soi de me venir avertir, quitte à se compromettre, prononça-t-elle sérieusement, assurée qu'elle était qu'un galant homme de ma sorte renoncerait à jeter la perturbation en une famille aussi clairement et exemplairement unie. Cette dernière expression allait me faire pouffer au nez de Madame la Biquerie, quand je pensais que rien n'était plus exact que les termes employés par elle, attendu que c'était pour que le contact demeurât plus intime et parfait entre les membres de sa famille, que Madame Denoulis s'était servie de moi comme chandelier. Je reconduis donc poliment jusqu'à ma porte Madame de la Biquerie, en lui faisant grâce et salam alec, et lui jurant que sa famille exactement unie ne me retrouverait plus sur son chemin. Et en effet, le lendemain dans la matinée, je quittais Vienne avant qu'elle eût ouvert l'œil. Aucun Biquerie, aucun Nouilly. Vous vouliez une mésaventure ? La mienne est cuisante. Elle ne l'est pas que pour vous, dit M. Brissonnet, car elle prouve que mon Hélène Desgaudrée, 2 ans après mon séjour en son manoir, avait bel et bien un amant. Rien n'est moins certain que cette dernière proposition, dit M. Bernereau. Et malgré de remarquables coïncidences, songez que jamais je n'entendis parler d'une vieille mère, et que la musique ne parut pas un moment tenir quelque place dans les préoccupations de mes Biquerie. Outre cela, qu'une femme s'élance des bras de son mari en ceux de son cousin, voilà qui ne dérange rien aux lois de la nature, mais qu'elle passe du goût éminemment sédentaire de la pêche à la frénésie de la locomotion rapide, qu'elle entorse à la logique. Les goûts ne sont-ils pas une des rares choses stables du monde ? On les apporte en naissant, on les tient de famille et on les transmet à ses héritiers. Peu, fredonna M. de Soucel. L'amour est un enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Reste que votre héroïne était blonde, dit M. Brissonnet, et la vôtre du plus beau brun. Ah, je perds l'édition pour acquérir le droit de restituer à ce personnage son nom véritable. Moi aussi. Moi aussi, dit M. de Sourcel, piqué lui-même. Eh bien, ajouta-t-il, je propose la paiera l'addition. Celui qui, par inadvertance, laissera découvrir le véritable nom. Et levons les masques, s'écria M. Brissonnet. Non, je m'y oppose, déclara M. Bernereau. L'usage du pseudonyme est plus délicat. Il est vrai que nous nous imposons une contrainte ridicule, dit M. de Soucel. Nous sommes des barbons, des gens d'un autre âge. Oh, nos fils riraient bien de nos subtiles cachotteries. Il y avait jadis des rideaux à l'alcôve, dit M. Bernereau. Aujourd'hui, on juge plus sain de n'en mettre pas même au lit. Allons, allons, Soucel, que la vieille discrétion française ne vous porte point jusqu'à esquiver un troisième récit qui vous est dû. Oh, le mien ne vous fournira pas vraisemblablement la lumière demandée. Il y a peu de chance que vous y reconnaissiez aucune de vos figures. Je vous transporte jusqu'à nos jours, ou du moins jusqu'à avant-hier, en pleine guerre. Et mon héros est un tout jeune homme, encore à l'heure qu'il est. Car nous n'avons point, après tout, prêté le serment de ne raviver que nos sujets d'amertume personnelle. Ce garçon, 25 ans, lieutenant dans l'infanterie, médaillé militaire. Ah, comme votre fils, cher Soucel. Oui, c'est un de ses compagnons. Permettez que je lui donne seulement son prénom, à savoir Stanislas. Stanislas, en 1916, a été évacué du front de la Somme sur l'hôpital 309, formation de l'arrière. Une balle dans la cuisse et l'épaule droite fracturée, il était soigné par une femme de si beaux traits sous la coiffe que plusieurs officiers en avaient eu déjà la tête tournée. Stanislas, objet de soins sans doute particuliers de la part de Madame X, à cause d'un état qui longtemps fut grave, conçut pour l'infirmière la plus ordinaire grande passion. Les camarades que tous avaient pris, non seulement sans difficulté, leur partie du rigoriste de la dame, montèrent amoureux un bateau qui n'eut pour résultat que de lui faire hausser l'épaule valide. Ne s'entendait-il pas pour affirmer que le cœur de Madame X était capté depuis l'ouverture des hostilités et par qui ? Par un pharmacien que certains avaient vu là, sous un képi à velours vert, dès le mois d'août 1914. Il citait, tel blessé, aujourd'hui encore en traitement, et témoin d'un épisode qui avait failli mal tourner. « Et le potard ?» interrogeait Stanislas. Bon, « Le potard, il avait été à cette occasion expédié vers une formation du front. » On a ajouté ce détail. Madame X et son pharmacien s'entretenaient en latin. En latin, cela sentait la farce. Stanislas était l'un de ces hommes d'aujourd'hui qui n'y vont pas de main morte et dissipent vite les ambiguïtés. « Est-ce que c'est vrai, demanda-t-il à Madame X, que vous savez le latin ?»« Pas plus que vous, répond-elle sèchement, et je n'ai d'autre chose à faire. » Et en fait, elle était pour l'heure à la tête de 24 lits. Mais elle parut choquée et bouda Stanislas. Si la question avait déplu à Madame X, c'est qu'elle se rattachait à quelque histoire, comme on le prétendait, fâcheuse. Stanislas, à peine debout et béquillant dans les couloirs, interrogea de ci de là personnel et blessés anciens. Il y avait trace d'un aide-pharmacien en 14 et même en 15, et nommé Mourveux. Quant à une affaire avec l'infirmière, les uns en ignoraient, les autres y opposaient un démenti catégorique. Certains, à cette évocation d'un souvenir déjà effrité, souriaient. Enfin, demanda Stanislas, ce Mourveux était-il latiniste ? Stanislas, posant cette question, tomba mal. Latiniste ! Les personnes auxquelles il s'adressait ne savaient pas ce que cela signifiait. Cependant, il fut plus heureux en interrogeant l'officier gestionnaire, qui par hasard était lettré. Latiniste ? Ah oui, je me rappelle en effet que l'aide-pharmacien Mourveux était licencié à ce lettre. Un cerveau un peu brûlé, d'ailleurs, comme la tête de cette fugue des cours de la Sorbonne à une boutique d'apothicaire. Mourveux avait la manie des citations, comme un vieux monsieur. Ah, mais quelle vérité gisait donc sous la légende des entretiens en latin ? Le lieutenant Stanislas était sans diplôme, mais enfin il avait fait ses études et assez récemment pour que quelques vers latins lui demeurassent encore dans la mémoire. Il chercha, trouva les mots par bribes, juxtaposa, scanda, établit laborieusement des fragments de texte. Et un beau jour, tandis que Madame X le pensait, il jeta négligemment « Veneris nec premia noris ». La sonorité de ces mots éveilla les esprits de l'infirmière, mais il était clair que les mots demeuraient pour elle incompréhensibles. « Vous avez fait vos études, vous » dit-elle au blessé. « Oh, par Dieu, comme tout le monde !»« Oh, comme tout le monde, non !» Et la pensée de l'infirmière sembla se voiler, son visage devint mélancolique, et elle dit « C'est que cette langue est si belle !»« Mais vous ne la savez pas, objecta Stanislas. » « Sans doute, mais je l'étudie. Tenez, par exemple, je sais par cœur le petit volume de M. Reynac. »« Connais pas ?» fit Stanislas. Cornélie ou le Vatin sans pleurs. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le lieutenant en riant. « Ne vous moquez pas. C'est intéressant au possible. Et il y a là-dedans des choses d'une poésie. » Tenez, pour la lune sur la mer, splendet tremulos sub lumine pontus. Je sais que ça veut dire la mer resplendit sous la lumière tremblante. Mais, madame X, vous prononcez le latin à la dernière mode, vous avez eu un professeur. Elle baissa la tête et dit en achevant son pansement. Voilà pour aujourd'hui. Vous verrez, je vous apporterai le latin sans pleurs. Elle apporta au lieutenant Stanislas un élégant petit volume relié en maroquin souple et d'un ton de rubis. Il était culotté. Madame X en faisait usage, n'en pas douter. Et même elle devait le transporter avec elle dans son sac à main. Peut-être le lisait-elle au lit. Et elle indiqua du doigt au lieutenant les vers virgiliens sur la lune et d'autres qui lui plaisaient. Tous deux se mirent à bavarder comme ils ne l'avaient pas fait depuis jusqu'alors. Stanislas se flattait d'avoir découvert le moyen de séduire cette femme, sans doute un peu singulière et qui avait le goût du latin. « Mais comment, on lui demanda-t-il, n'en avez-vous pas fait toujours du latin et ne connaissez-vous encore que le volume de M. Reynac ?» « Ah, voilà !» répondit-elle. Et c'était tout ce qu'on pouvait obtenir de cette énigmatique personne. Stanislas moquait du latin, mais Madame X, qu'autour de lui on disait un peu mûre pour trouver quelque chose contre elle, lui paraissait à lui désirable, et il était parvenu, grâce au latin, à l'apprivoiser. Le bruit commençait à se répandre au 309 que Madame X avait déniché un second latiniste. Lorsque le lieutenant alla mieux, elle l'invita à goûter chez elle ainsi que plusieurs de ses camarades. La maison de Madame X fut estimée cocasse. En chaque pièce, les murailles étaient ornées de banderoles sur lesquelles une main inexperte s'était appliquée à tracer en caractère romain des sentences empruntées aux grands auteurs de l'Antiquité. La plupart des convalescents n'y virent, il est vrai, que du noir sur du blanc, et aussi un goût excentrique. Mais Stanislas, lui, était intrigué. Une femme aime-t-elle tant le latin pour lui-même ? Comme on passait dans la salle à manger, l'attention du lieutenant fut aussitôt attirée par des bocaux de pharmacie portant tous sur la panse en latin, selon l'usage ancien, l'indication de leur contenu. Il y en avait qui, surmontés d'abat-jour, étaient devenus lampes aux deux bouts de la cheminée, il y en avait un empli de tabac destiné aux poilus. Ces réceptacles de toutes les drogues de la vieille pharmacopée tendaient à faire de la pièce un véritable boticairerie. Cependant, bien que les bruits qui avaient uni Madame X au pharmacien Mourveux fussent vieux de plus d'un an, Stanislas fit la liaison entre cette collection de faïences et la légende des obligeantes. Il parcourait chaque paroi de la salle en s'efforçant de déchiffrer les inscriptions abrégées. Axungia, Ursini, Extrat, Juniperi, Extracti, Bof, Sapo, Starkii, Unguentum Populi, Caratum, Ergalni, etc., etc. Le lieutenant prononçait à haute voix les noms des drogues absorbées par nos aïeux, et il en ajoutait de son cru et de fantaisie gauloise afin d'amuser la compagnie. Mais à part lui, il recueillait ici la preuve manifeste de relations littéraires ou non entre l'infirmière, de qui il appréciait la superbe maturité, et l'ex-potard de l'hôpital 309. Madame X n'éprouvait aucune gêne à exhiber ses bocaux. Elle disait « Ah, c'est une douce manie à moi. Je trouve cela décoratif. Cela m'évoque les vieilles rues de Rouen, les échoppes et les bonnes femmes en bonnet normand, venant demander deux sous de séné ou une consultation à propos de la colique de miserere au savant homme capable de lire ce latin, car l'apothicaire était, disait-elle, un docte personnage, probablement plus fort que le médecin. Et où avez-vous fait cette collection, madame ? Oh, j'ai recueilli tout cela dans le pays même. Et depuis quand, madame ? Mais depuis la guerre, chaque jour de congé que je prends. » Monsieur de Soussel en était là de son récit, quand il dut l'interrompre parce que le vrombissement d'un moteur dans la rue proche atteignait des proportions décidément incompatibles avec l'émission d'aucun autre son. Le tonnerre cessa tout à coup, et Monsieur de Soussel reprit alors, et par un phénomène naturel, en élevant la voix aussi haut que si le monstre mugissait encore, de sorte qu'il ne s'aperçut pas qu'un grand jeune et beau garçon était planté derrière lui. Ses auditeurs lui touchèrent chacun le bras. « Attention, votre fils vous écoute !» Et il souriait au nouvel arrivé. « Mais je ne suis pas trop, » s'écria le jeune de Soussel, « puisque papa vous raconte mon affaire avec la mère Chantepie. » « Chantepie ?» murmura M. Brissonnet. « Chantepie ?» murmura M. Bernerot. « Bon, la baronne de Chantepie, si vous voulez, quoi. C'était son nom à cette femme. Oh, je ne l'ai pas eue, vous savez. Elle a épousé son pharmacien. » Messieurs Brissonnet et Bernerot frappèrent en même temps la table d'un si vigoureux coup de poing que le verre tomba. Les garçons se précipitèrent. « Apportez l'addition, » dit M. de Soussel père. « Je vois que le règlement en incombe à moi, que nous avons fini de parler. » « Mais tout de même, elle était brune, » soupira M. Brissonnet. « Blonde ?» répliqua M. Bernerot. « Oh, teinte !» dit le jeune homme. « Mais comment le savez-vous ? Oh, c'est le potard lui-même qui me l'avait dit en 309. « Messieurs !» « La couleur se modifie, » conclut le papa, « comme les goûts de la femme, qui ne sont autres que ceux de l'homme aimé d'elle. Et cela, si divers que soient les hommes, qu'elle peut aimer. » En sorte qu'une seule baronne de Chantepie, Gaudrey, Noulis et Madame X, peut nous faire croire à trois personnes.